Donc je n'ai pas pu m'empêcher de vous donner déjà certaines choses, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, et vous comprenez pourquoi je vous l'ai dit, donc on va parler de l'existence de Dieu, même si vous y croyez, déjà, Créateur et Père, pour faire un catéchisme de base qui vous sert à comprendre l'importance du mariage et sa dimension de procréation, c'est-à-dire... vous participez à quelque chose qui est, comme disent les Américains, un intelligent design, n'est-ce pas, un dessin intelligent, une intention intelligente, et qui dépasse la religion de la planète que nous subissons actuellement. Donc si vous n'êtes pas climato-sceptique, vous allez souffrir. Et donc, pour ma part, ce n'est pas que je sois climato-sceptique absolument, mais... Le fait d'en faire un absolu et une religion me contrarie forcément vu mon état. Parce que la vraie religion, c'est d'abord de ne pas polluer hein, et de ne pas gâcher. Hein. Non, ce n'est pas l'essentiel de la religion. Mais ça fait partie de la religion d'ailleurs. Le fait de ne pas jeter son huile de vidange en forêt, le fait de ne pas ouvrir d'usines qui mettent du plomb dans l'air, c'est le cinquième commandement. C'est le fait de ne pas faire de mal, ou de ne pas ou respecter la création aussi. Et le fait de ne pas gâcher de nourriture, ou de ne pas gâcher de biens, de ne pas être dans le consumérisme, c'est aussi le septième commandement, le cinquième commandement aussi. Et donc, le fait de ne pas voler, septième commandement, tu ne voleras pas. De ne pas faire du mal aux autres, de ne pas provoquer aussi des crises économiques par une production excessive qui ensuite aliène des bassins d'emploi. Mais ça, si vous voulez, c'est plutôt la doctrine sociale de l'Église. Mais on ne peut pas faire le cœur de la religion ou le cœur de notre pensée. C'est la raison pour laquelle je commence donc par l'essentiel. Dieu est un esprit éternel, intelligence et volonté, qui est artiste de beaucoup de fantaisie de la création. Qui est Dieu ? Dieu est un esprit. Qu'est-ce qu'un esprit ? C'est un être intelligent et volontaire. Vous voyez, comme ça, si vous vous souvenez de ce que je vous dis, si un jour il y a un micro-trottoir, on dit « Monsieur, et qui est Dieu ?» Il dit « Mais c'est un esprit. » Il convient. C'est un être intelligent et volontaire. Oui. Et éternel. Ça veut dire quoi ? C'est qu'il a toujours existé. C'est une pure intelligence, Dieu. C'est un être qui se comprend et qui comprend tout. Il est à l'origine de tout. Il est à l'origine de tout ce qui existe. Rien n'est étranger à lui. Et il est à l'origine de la création de tout être. Il est la toute-puissance en lui-même. Il est l'être en lui-même. Quand Abraham lui demande son nom, Dieu lui dit « Je suis, je suis. Je suis l'être éternel. » Seulement, l'être éternel n'est pas le cosmos, n'est pas un fluide énergétique, c'est un être pensant. C'est un être pensant et c'est un être aimant, Dieu. Vous êtes conscient de vous-même, vous dites « aujourd'hui je me suis réveillé, aujourd'hui je me suis coiffé, j'ai mangé ». Vous êtes conscient de ce que vous êtes. Vous savez quels sont vos amis, vous avez des gens avec qui vous êtes querellés, disputés, séparés, perdus de vue. Vous êtes conscient de votre vie. Dieu, lui, est un être qui pense, qui est conscient, qui est conscient de vous. Il s'exprime, il dit ce qu'il est, il dit sa joie, il fait des reproches. Mais pour sa part, il y a une grande difficulté chez Dieu, c'est qu'il est parfait. C'est-à-dire qu'il ne fait pas de faute. Il n'a pas demandé pardon lui-même. Il ne se trompe pas. Il pense juste. Il crée juste. Vous dites, mais pourquoi a-t-il créé les rats? Pourquoi a-t-il créé, permis le virus de la rage? Pourquoi il a créé les oursons? Ah ben ça, c'est parce que c'est mignon. Et pourquoi il a créé des êtres très laids où vous avez des poissons qui ont des têtes mais effrayantes, des insectes tout à fait étranges, des araignées blanches avec des yeux noirs qui font quasiment 360 degrés sur la tête. Je dis, mais qu'est-ce qui lui est passé par l'esprit pour faire ça? Eh bien, voyez-vous, Dieu ne s'ennuie pas parce qu'il a sa propre vie avant de créer. Sa propre vie, c'est de se connaître. Et vous ne pouvez pas vous imaginer ce que c'est sans être orgueilleux et égoïste et vaniteux d'être parfait. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est que d'être la bonté même et la gentillesse même sans un millimètre d'orgueil et d'être conscient qu'on est infiniment bon et infiniment parfait, infiniment gentil. Je peux vous assurer que Dieu est très heureux. Et en lui-même, sa pensée éternelle, c'est lui-même. Il se pense. Vous voyez ? Il réfléchit sur lui-même. Étymologiquement, réfléchir, c'est se fléchir, c'est faire une flexion sur soi-même. Donc est-il égoïste? Est-il narcissique? Est-ce qu'il se regarde dans le miroir, comme la Castafiore? N'est-ce pas? Eh bien, saint Paul le dit. Il dit que le verbe, quand Dieu se dit, s'exprime, c'est le miroir de sa substance. Quand vous parlez comme des esprits, pas comme des animaux. Et vous dites quelque chose de vous-même. Ouais. Eh bien, Dieu, quand il parle, il dit tout de lui-même. Et quelque chose qui est une réplication de nous-mêmes, c'est comme un enfant. Et c'est la raison pour laquelle il nous a donné cette image. Il a dit que sa pensée éternelle, sa parole éternelle était son fils. Mais alors on a envie de dire à Dieu, mais pourquoi il y aurait quelque chose entre votre être et votre expression? Eh bien, de la même façon que nous pouvons parfois nous parler à nous-mêmes, sauf qu'en Dieu, il radote pas ou il n'est pas, cela va sans dire, mais ça va mieux en le disant. C'est-à-dire que parfois, on a envie de dire ce qu'on pense. Non. On l'exprime, et ça va mieux. C'était déjà en nous, mais on le dit. C'est intelligent, plus ou moins, mais quand même. Eh bien, Dieu, lui, se dit. Et Dieu qui se dit, c'est le Père et le Fils. Mais il n'y a pas deux dieux, puisque c'est la même être qui parle. Et comme je vous le disais, Dieu est tellement heureux d'être bon, que jaillit en lui, dans sa contemplation personnelle, qui n'est pas narcissique, un amour extraordinaire. Il tombe amoureux de lui-même. Alors Narcisse, vous connaissez peut-être l'histoire, hein, donc il était tellement beau, le bonhomme. À défaut, donc, si vous voulez, il était très beau. Et comme il se regardait dans le lac, vous aviez, je ne sais plus si c'est Vénus ou Athéna qui voulait avoir quelques rapports avec Narcisse. Et Narcisse était là et n'avait Dieu que pour lui-même. Donc elle en a eu assez, elle l'a transformé en fleur. Comme ça, tu vas pouvoir te contempler dans l'eau, mon vieux. Ouais. Donc là, il est devenu une plante qui pousse plutôt dans l'eau, non, c'est ça ? Narcisse ou je sais pas quoi, enfin qui est au bord de l'eau et qui se miroite dans l'eau. Eh bien, Dieu, lui, a une telle joie de se connaître, de sa bonté, de sa bienveillance, de sa puissance aussi, quand même, que naît un amour éternel, qu'on appelle l'Esprit Saint. Alors vous me direz, mais comment ça se fait que la partie, la fausse partie, parce qu'il n'y a pas trois dieux, il n'y a pas deux dieux, a le même nom que le tout, l'Esprit Saint. Mais parce que Dieu est un pur esprit, et que l'esprit est plus particulièrement l'amour. L'intelligence et la volonté se résument dans l'amour. La bienveillance, la bonté intrinsèque. Dieu est amour. Et Dieu a une expression de lui-même et un bonheur en lui-même qui est infini. Et dire qu'il a toujours existé parce qu'il est l'être. Il aurait pu, en lui-même, se réjouir de toute la capacité qu'il a, de toute la puissance qu'il a. Et il aurait pu ne pas créer. Il aurait été Dieu, heureux. Parce qu'il n'est pas égoïste, je ne sais pas si vous vous rendez compte, il a un pur bonheur. Hein. Et son amour est presque extatique sans même créer. Je suis heureux, je suis Dieu. Vous voyez ? Eh bien, il a voulu créer. Alors, la première chose qu'il a créée a été le plus compliqué. Il n'a pas commencé à créer la matière. Parce que la matière, c'est simple. Ce n'est pas 6 jours de 24 heures, hein, la création. Le premier temps de la création, c'est la création de la matière. Hein, le Big Bang, si vous voulez. Plein d'électrons, de protons, de neutrons, cette matière. Et plus on connaît la matière, et plus on voit que c'est du magnétisme, que ce sont des énergies qui se repoussent, tout ça. Mais voyez-vous, le problème, c'est de se dire, oui, mais alors rien n'est véritablement matériel, rien n'est véritablement solide, puisque ce sont des énergies, des forces entre les quarks, entre les électrons, les protons, les neutrons, les particules, et qu'en fait on pourrait les traverser comme la lumière traverse le verre. Et la lumière, c'est quoi ? C'est une énergie. C'est de la matière qui se consume et qui envoie des protons. Et qui sont des milliards de billes qui rebondissent partout. C'est ça la lumière. Hein ? C'est une source lumineuse qui se désagrège. C'est ça la cause de la lumière. Donc, quand dans son langage extrêmement simple, l'auteur sacré inspiré par Dieu dit « Au commencement était le Verbe et le Verbe était Dieu », n'est-ce pas ? Mais au commencement était il n'y avait rien. Le tohu-bohu hein, en hébreu, c'est-à-dire un magma. Et la lumière fut. Ben, la lumière, c'est la matière. Dès qu'il y a matière, il y a frottement, réaction et lumière. Le cosmos. Mais alors avec des quantités de matière, d'étoiles, avant qu'elles explosent, qu'elles se refroidissent et fassent des planètes. Et avec un cœur encore incandescent. Eh bien, voyez-vous, Dieu, cette énergie incroyable qu'il y a, on se dit, c'est pas solide alors, finalement. Toute matière est quelque chose d'énergétique. Seulement, voyez-vous, si moi je prends ça et je fais ça, vous voyez ? Alors c'est peut-être de l'énergie qui va passer à travers l'énergie de mes atomes. Et ça me fait mal quand même, je ne vais pas le rentrer comme une une pièce dans une tirelire. Je vais mourir. Ça va désagréger l'assemblage atomique très bien fait de ma boîte crânienne et de mon cerveau. Donc, quand Dieu fait de la matière, il fait quelque chose d'extrêmement complexe. Il y a combien d'éléments? 110, 108, les stables. C'est moi qui ai fait passer. Hein. Et on en découvre qu'ils sont éphémères. Hein, on remplit à nouveau le tableau des éléments, mais ce sont des... Lors de réactions chimiques, on voit une molécule, mais cette molécule n'existe qu'un quart de seconde, un milliard de secondes, et ce n'est pas des éléments stables comme l'or. Vous savez que la molécule d'or est formée dans les étoiles. On n'arrive pas à la synthétiser. C'est pour ça que c'est rare. En plus, c'est inoxydable, donc c'est un beau métal. Mais la quantité est très limitée, on n'arrive pas à synthétiser l'or. Oh, le jour où on synthétisera l'or, ben, le prix de l'or diminuera. Mais pour l'instant, c'est un métal extrêmement rare qu'on ne trouve que sur des météorites ou sur des étoiles. Mais toutes ces molécules, le bon Dieu s'est amusé à les faire. Le fer, les gaz, l'oxygène, l'ammoniac. C'est pas Neptune qui a des milliards de mètres cubes d'ammoniac. Hein, si vous voulez faire du SIF, vous avez plus qu'à faire un petit voyage sur Neptune. Mais c'est un peu compliqué. Ou Jupiter, non? C'est pas Jupiter qui a des quantités de gaz absolument incroyables. Eh bien, Dieu n'a pas voulu faire la matière au début. Il a voulu faire des esprits. Ce qu'on appelle des anges. Et les anges sont des personnes, comme vous et moi. Elles ont toutes leurs petits noms. Elles ont toute leur vie personnelle. Et le jour où vous rencontrerez un ange, où vous parlerez avec un ange, ou après votre mort que vous verrez les anges, votre ange gardien, Dieu donne un ange à chaque être humain, eh bien vous vous apercevrez que ce sont des êtres qui sont totalement personnels et qui valent la peine d'être connus un par un. Ce ne sont pas des petits angelots représentés... Non. Ce sont vraiment des personnes, avec leur intelligence, leur volonté, leur amour. Et c'est très impressionnant, les anges. Et très impressionnant. D'ailleurs, il y en a un qui a voulu rentrer. Sauf qu'ils n'ont pas de corps. Ce sont de purs esprits. Et Dieu a créé des milliards de milliards d'anges. Ils ont leur vie, ils ont été créés avant la matière. On s'imagine mal hein, le monde des anges. Vous avez des êtres humains qui veulent absolument faire du spiritisme, invoquer les esprits. Dieu nous a interdit de vivre avec les anges de manière intéressée. Il nous dit, vous pouvez leur demander de prier pour vous, mais vous ne devez pas être en permanence à vous soucier de leur présence. C'est trop fort pour vous. Et en plus, parmi les anges, il en est qui ont abusé de leur intelligence. Vous avez 9 natures angéliques, plus particulièrement, c'est grossièrement dit. Dans ces natures angéliques, vous avez les anges les plus intelligents et les plus proches de la connaissance de Dieu, qu'on appelle les chérubins et les séraphins. On les représente avec 3 paires d'ailes. Une paire en haut, une paire sur les côtés, une paire en bas. Et ce sont des êtres de purs esprits, ils n'ont pas d'ailes, hein, ils n'ont pas de corps, mais on les représente comme ça parce qu'ils ils se sont rendus visibles par Musée Grévin, hein, ils ont fait des apparences fantomatiques, ils concentrent de la matière, ils sont meilleurs que des spécialistes d'effets spéciaux d'Hollywood. Enfin, au Musée Grévin, c'est pas trop difficile vu les visages ratés qu'on voit. Donc, certains sont réussis, mais d'autres, on se demande, mais vous faites exprès pour que ça ressemble pas du tout. Et donc, les anges, eux, peuvent concentrer de la matière et pas seulement de la cire. et vous apparaître même avec un corps, avec un visage, avec il vous semble même qu'il respire, sauf que je pense qu'il ne s'embête pas à faire des organes à l'intérieur. Mais ce sont de purs esprits. Et parmi ces anges, il en est un qui était l'étoile du matin, la connaissance matutinale. C'est-à-dire, il a été créé et il avait une telle contemplation de Dieu qu'il en faisait, il faisait partager à d'autres anges cette connaissance de Dieu. Le porteur de la lumière matutinale, de la première création, la création des esprits, Lucifer. Ferre, lux, celui qui porte la lumière, l'étoile du matin. Vous voyez ? Et donc cet être, Lucifer, était un saint ange, un chérubin. Mais il était tellement conscient de lui-même et de sa puissance, de sa beauté, de sa bonté même, de sa capacité, qu'à un moment donné, il a été tenté de renverser Dieu, ce qui est impossible. Alors à quel moment il a passé le pas ? D'après la Sainte Écriture, la Bible, hein, le mot Bible vient de la ville où on faisait des pages en, comment dire, en papyrus, en, comment dire, qui a fait les premiers livres, donc Biblos. Eh bien, la Sainte Bible, le livre par excellence, parce qu'il contient les grandes vérités, par petite touche, nous dit que Lucifer s'est pris pour Dieu, qu'il a voulu être sur le trône de Dieu, mais surtout qu'il a très mal réagi à des révélations divines où à un moment donné, Dieu, d'après le psaume, d'après une prière du roi David, que nous verrons plus tard, eh bien, Dieu a dit à ses anges, lorsqu'il a introduit son premier-né dans le monde, c'est le premier-né, le primo, génitus, c'est son verbe, son fils, mais dans le monde. Alors certains pensent que Dieu avait déjà révélé aux anges son incarnation, le fait qu'ils s'unissent à sa création. Et là, Lucifer dit, mais pourquoi il ne s'est pas uni à moi? Pourquoi je n'ai pas une participation de la nature divine personnelle? Eh bien parce que mon Dieu, mon pauvre vieux, t'es déjà créé. Donc tu as déjà ton existence et Dieu ne va pas s'unir à toi. Et quand il introduisit son premier-né dans le monde, Dieu dit, adorez-le. Et les anges devaient adorer non pas seulement Dieu et l'expression de Dieu, le Fils, mais probablement son incarnation. Alors vous avez les dominicains, les théologiens de Saint-Dominique et les théologiens franciscains ou jésuites qui se disputent pour savoir si l'incarnation aurait été faite sans le péché humain. En tout cas, les anges auraient eu cette épreuve. Et ça, c'est de tradition quand même biblique que chrétienne, hein, c'est que Lucifer s'est révolté contre Dieu quand il a vu l'incarnation. Il a entrevu l'incarnation. Quoi ? T'incarner dans un animal. Oui, mais enfin, il a un esprit comme toi. Oui, mais enfin, c'est un ver de terre. Il se mouche. Il fait caca. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est indigne. Et moi alors, qui suis un pur esprit, pourquoi moi? Pourquoi pas moi? Et là, il a hurlé. Non serviam, hein. Je ne servirai plus Dieu. C'est moi qui serai Dieu. Et là, vous avez un archange. Un archange, c'est dans les catégories des anges, un chef d'ange. Certains disent qu'ils sont supérieurs aux séraphins, les archanges. Hein? La hiérarchie des anges, au sommet de la hiérarchie des archanges. Et là, il lui a dit Michael. Hein? Ça, c'est l'hébreu. Elle, c'est Dieu. Elohim, les dieux. Et Israël, c'est fort face à Dieu. Et quis ut Deus en latin, Michael en hébreu, qui est comme Dieu? Mais pour qui te prends-tu? À qui te compares-tu? Qui peut se comparer à Dieu? Et donc, Michel a tout de suite, s'est tout de suite opposé à Lucifer. Et pour la petite tradition orale, on dit que c'est Gabriel qui a répondu la force de Dieu. Ou la force virile, l'homme, Dieu. Et ce qui fait que Gabriel a été l'archange qui a présidé à l'incarnation. Pour avoir, s'être opposé à Lucifer tout de suite. Mais on dit quand même que Lucifer a emporté un tiers des anges. Ce qui est considérable. Et ils sont rentrés dans une haine inextinguible. Ils n'avaient pas la vision de Dieu. Ils étaient encore dans la liberté de choisir d'aimer Dieu ou de le refuser. Alors les anges qui ont choisi Dieu sont rentrés dans la vie divine. Et ils ne pourront jamais plus la perdre. C'est la vision divine, c'est l'état de grâce perpétuel pour les anges. Et pour ceux qui sont devenus des démons, c'est la haine perpétuelle. Et ils ne pourront pas se convertir. Parce que ce sont des êtres spirituels, ils ont choisi totalement librement la haine de Dieu. Ça serait absurde pour eux de changer d'avis. Mais c'est absurde de s'être coupé de l'amour de Dieu. Oui, mais pour la beauté du geste. Si vous voulez, c'est... vous avez un enfant qui voit un château de sable merveilleux. Lui, il a fait une grosse merde. Enfin, c'est plutôt troglodyte. L'autre, il a fait un truc, mais... prince, princesse. Alors, il est là, il fait bien. Donc il détruit le château de sable de l'autre pour qu'il n'existe plus. Il ne fera pas mieux, mais c'est pour le plaisir de détruire ce qui le rend jaloux, triste, parce que c'est plus beau. Ça, c'est la malice. Et si un jour, vous avez un de vos enfants qui commence à faire ce genre de choses, même si c'est interdit par la loi, foutez-lui une gifle. Parce que c'est l'orgueil et c'est la jalousie la plus pure. Ah, mon fils est Lucifer. Non, quand même pas, parce qu'il n'a pas encore cette capacité de faire les choses absolument. Mais il faut le dissuader de le refaire, cette jalousie, cette tristesse du bonheur et du bien des autres qui est le propre de Lucifer. Lucifer est jaloux de Dieu. Et ça sert à quoi d'être jaloux de Dieu, puisque Dieu n'est même pas orgueilleux, n'est même pas accapareur. Il donne. Il lui a donné l'être quand même à Lucifer. Il n'est pas content d'être un ange. Ça ne le satisfait pas. Je peux vous assurer qu'il a des capacités extraordinaires, techniques, mais aussi d'amour, une très grande finesse d'âme. Mais l'esprit humain, qui est un pur esprit comme les anges, est aussi capable d'amour qu'un séraphin, qu'un chérubin. Nous sommes capables d'aimer. Et l'âme de saint François d'Assise est, paraît-il, d'une telle pureté qu'il est dans le cœur des séraphins, actuellement. Il est au niveau des séraphins, qui sont dans la vision divine, et lui, avec son âme humaine, il vibre comme les séraphins. Ouais, impressionnant, parce qu'on meurt et on choisit l'amour d'une manière plus ou moins intense. Par contre, pour voir Dieu, il faut au moins choisir l'amour. Même si on est une brute épaisse, il faut au moins être un peu gentil pour sauver son âme. Pour entrer dans la vie divine. Mais il y a des gens rustres qui n'aiment pas beaucoup, et des femmes et des hommes d'une grande finesse qui aiment beaucoup. La Vierge Marie a une âme, elle est au-dessus des anges dans son amour. C'est impressionnant quand même. alors qu'elle a été créée femme, hein, c'est-à-dire avec un corps animal. C'est pas rien quand même, hein. Alors, donc, Dieu va créer la matière. Alors, pour les 6 jours, hein, de la création, on est bien d'accord. Vous pouvez faire des millions d'années, des milliards d'années, comme vous voulez. Hein, pour le cosmos, les machins, la formation des galaxies. Allez-y, 100 millions, 1 milliard, qui dit mieux? Voilà. Bon. Et donc, par contre, le récit biblique est authentique, dans le sens où il y a la création de la lumière, c'est-à-dire la matière. Ensuite, vous avez la création du solide par rapport au gazeux. Hein, vous avez les immenses gazeuses, hein, des planètes, des étoiles. C'est du gaz en explosion permanente. Hein. Le soleil, c'est une usine à gaz. Hein. Et puis, vous avez la terre. Et puis, vous avez les plantes. Dieu a pu créer de la vie de cellulaire, de plancton, de phytoplancton, d'herbes, d'arbres, ailleurs que sur Terre. Et je peux vous assurer que je m'en fous complètement. Mais c'est possible. Je n'irai pas brûler comme hérétique quelqu'un qui me dit qu'il y a des extraterrestres. Mais je m'en fous, mais à un point. C'est-à-dire que ça va faire des décennies qu'on essaie de rentrer en contact avec eux. Bon, si un jour ils rentrent en contact avec nous, ça sera sympa. Mais j'espère surtout qu'ils auront choisi l'amour, hein, que ce ne sera pas des démons. Que ce ne sera pas des êtres extrêmement malicieux et très méchants. Mais en tout cas, eux-mêmes auront dû choisir entre l'amour et la haine, et eux-mêmes auront eu leur grâce de se sauver. Est-ce que ça aura été un Jésus pour eux? Tout être intelligent a besoin de Dieu. Eh bien nous, nous avons été créés. Après les plantes, après les oiseaux, les poissons, les oiseaux, c'est très amusant. Parce que quand vous faites de l'archéologie, en effet, les poissons ont existé avant les mammifères. C'est l'ordre de la Genèse qui fait 5 lignes, hein, est très beau, très simple. Mais les jours, le mot jour est une traduction française, si vous voulez, ou européenne. Mais en fait, le mot hébreu, c'est période. C'est pas jour. De toute façon, le soleil apparaît au troisième ou quatrième jour. Donc, les luminaires de la Terre, soleil et lune, se stabilisent pour la Terre, ou la Terre se stabilise au quatrième temps de la création. Pour nous, pour la planète bleue, avec l'atmosphère, avec le magnétisme, qui nous protège du rayonnement cosmique, qui est l'équivalent de billes de plomb qui nous traverseraient s'il n'y avait pas cette protection magnétique. Eh bien, voyez-vous, vous avez donc les animaux, vous avez les mammifères, vous avez des singes. Alors, comment Dieu a créé les espèces? Les unes à côté des autres, ou par une évolution, avec une intervention divine pour transformer l'ADN à chaque fois que l'espèce est différente? Parce qu'entre le singe et nous, Il y a une différence d'ADN monstrueuse, c'est-à-dire que l'insuline du cochon est plus compatible avec l'insuline de l'homme que l'insuline du singe. Essayez de vous prendre de l'insuline chez le singe, il tue l'homme. Donc pour des cousins, ils sont pas sympas. On est des mammifères, et vous avez le pouce opposé, mais P12 va dire. Dieu a pu conduire l'évolution, mais avec des interventions, parce que, comme dit Darwin, les chaînons manquants détruiront ma théorie. Comment on passe des poissons aux serpents et aux oiseaux? Il y a des usines dans l'océan? Alors, bon, maintenant les branchies c'est fini, voilà, on va faire des poumons. Ah oui, mais alors pourquoi, si c'est complètement par hasard, par microévolution, sélection naturelle, vous n'avez pas encore des poissons en train de crever sur le rivage? Oui, parce qu'avec branchies, poumons, ils ne savent plus où ils en sont. Vous voyez, les mamelles, vous avez dans National Geographic, je crois, quasiment. Pourquoi il y a des mamelles? Parce que les poissons suçaient les écailles de leur maman. Ça change le code génétique, ça? Après la naissance? Se foutre du monde. Ah oui, mais la station debout, c'est parce qu'on observait nos ennemis. Ah, ça rentre dans l'ADN. Que vous marchiez à quatre pattes ou que vous marchiez debout, vous croyez que vos enfants, vous voyez, dorénavant, je marcherai à quatre pattes, et comme ça, j'aurai des enfants qui marcheront à quatre pattes. Non, votre ADN, il est fixé, hein, c'est fini. Vos attitudes après votre naissance ne peuvent pas influencer votre ADN. C'est scientifique. La création d'Adam et Ève, c'est quoi pour l'Église catholique, pour la Bible, mais aussi pour les musulmans et pour les juifs, et peut-être même pour d'autres religions? C'est un homme. Adam est un personnage historique pour la foi chrétienne. Ah non, mais là, non, c'est pas possible. Si, si. C'est pas une légende. Et entre l'ADN d'Adam et notre ADN, il est identique. Et quand on aura l'ADN de Cro-Magnon et de Néandertal et tout ce que vous voulez, dès que vous avez outil, art, vous avez un être humain. Et ça sera bien amusant de voir que c'est le même ADN que le nôtre. Manque de chance, pour l'instant, on n'a pas encore trouvé des cheveux de Cro-Magnon ou machin. Et ils nous disent, ah mais non, c'est des singes particuliers. Macache. Dès que vous avez des lances, des pierres, des machins taillés, vous avez un être humain. Alors, ils nous ont précédés. Non, 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 ils viennent du même endroit et ils ont vécu dans telle grotte. Et avec notre datation, on les envoie à 100 000 ans, 200 000 ans, machin, pour rigoler. Pourquoi? Parce que, voyez-vous, la Bible nous dit une chose très, très, très simple. Adam a été créé entre le Tigre et l'Euphrate, géographiquement. Les plus vieilles nécropoles sont de cette région. Parce que l'homme est l'homme, il a vécu, il est mort, il a été enterré. Et les plus vieilles nécropoles sont comment dire, tout autour du croissant fertile. Et ensuite, les nécropoles où les bonhommes enterrés avec les pots les pots de nourriture et tout ça. Cro-Magnon ou compagnie en Europe, c'est tardif, c'est après. Sans compter que Lucie, hein, la pauvre, c'était une chimpanzée ou une australopithèque. Hein. Vous avez des scientifiques qui disent bah non, elle n'est pas humaine, d'autres disent mais si, elle est humaine, gna 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 gna. Mais si vous voulez, Luc Besson, lui, il est panthéiste. Nous sommes de la pure énergie. Hein. C'est George Lucas, c'est la force. Bon, vous avez les bactéries dans le sang, les midi-chloriens qui manipulent un peu l'ADN, n'est-ce pas? Mais sinon, à part ça, c'est très nul. On n'est pas issu de la force. Vous voyez? Et pour dans le, je vais vous spoiler le film Lucie de Besson, de Luc Besson. Alors lui, les mini-moïs, c'est aussi du panthéisme. Hein, donc vous avez Arthur qui est là, qui s'attache à un arbre ou à une pierre. Et quand il y a un animal qui passe, qui lui pisse dessus, ça veut dire qu'il est devenu une pierre ou un arbre. Donc il a réussi. Il est redevenu de la matière. Luc Besson, il pense qu'à ça. Hein. Et donc ce qui fait que quand il a fait le cinquième élément et tout ça, et qu'il a fait Lucie, en fait, il l'a appelé en l'honneur de l'Australopithèque qu'on a trouvé dans une vallée africaine. Et donc, nous sommes de l'électricité. C'est les atomes crochus. Vous voyez? De la bactérie aquatique jusqu'à l'être humain, jusqu'au mammouth et tout ça c'est des assemblages, c'est du Lego. Pour lui, on est des Lego. Et donc, à un moment donné, elle est là, et quand elle devient super intelligente par une drogue bleue, hein, et elle est là, elle comprend tout, elle remonte l'histoire de l'eau, n'est-ce pas? Et donc, elle sait ce qui s'est passé à cet endroit-là, parce qu'en fait, elle remonte, les atomes lui disent, ah, mais avant, on était là, avant, on était ici, on était comme ça, on était comme ci. Donc, elle remonte dans le temps, elle remonte, elle redescend, elle remonte, elle redescend. Tout est électrique. C'est pour ça qu'elle tue quelqu'un, elle dit, mais on ne meurt pas vraiment. Hein, elle dissocie les atomes du bonhomme. Vous voyez? Ou elle écrase les gens, Rue de Rivoli. Vous voyez? Et puis, à la fin, elle arrive à une super synthèse et elle devient une clé USB. Alors franchement, quitte à vous raconter des conneries et des légendes, moi je préfère Adam, parce que Adam c'est un homme, et lorsqu'il est seul et qu'il voit les animaux et qu'il voit les plantes autour de lui, réelles dans le jardin d'Éden, qui est entre le Tigre et l'Euphrate, hein, il voit les animaux qui sont là, il ne voit pas tous les animaux du monde, hein, il n'est pas en Australie en train de regarder les, comment dire, les kangourous et tout ça, il a les animaux de sa plaine. Et il dit, mais il est intelligent, hein. Adam est pas, n'a pas été créé gronc-gronc. Hein. Il a été créé avec un corps adulte et un esprit. Et avec la science infuse, avec un langage, il a été créé. Et Dieu lui parle comme il a parlé à Moïse, comme il a parlé comment dire, à Marthe Robin, comme il a parlé au Padre Pio. Et il dit, je suis seul. Et Dieu l'endort et prend de la matière d'Adam, des atomes d'Adam. C'est très drôle parce qu'en soi, c'est du clonage. Sauf qu'il modifie quand même le chromosome puisqu'il fait une femme. Et quand Adam se réveille et qu'il voit Ève, il dit, c'est la chair de ma chair, c'est les os de mes os. Et ce qui est très impressionnant dans la création d'Ève par rapport à Adam, et ça, c'est de manière, ça, c'est mon côté du Titi parisien du 12e arrondissement. Non. Je suis corse par mon père, mais qui est né à Versailles et qui a vécu à Saint-Maur puis à Paris. Et dans la caserne de pompiers de mon grand-oncle, qui venait tout droit du village de Corse pour être adjudant de pompiers à la fin de sa vie. Et mon grand-père, lui, était dans la coloniale. Donc. Mon père a eu un père qui était dans la coloniale, a eu un grand-oncle, et pendant la 39-45 et après, il a été dans la caserne de pompiers. Les titis parisiens qui étaient sapeurs-pompiers dans les années 40, c'était pas forcément, ils parlaient pas forcément Molière, hein, c'était plutôt de l'argot. Et donc, j'ai des réminiscences d'éducation par mon père. Et donc, pour ne pas être trop vulgaire, Adam a été créé avec quelque chose entre les deux jambes. Il a été créé sexué, avec une verge et deux testicules. C'est pas un androgyne qui a été créé. C'est pas au moment où il a créé Ève que Dieu a fait de Iti un homme. Et donc, Adam, lui, voit la première femme de sa vie, avec un sexe féminin, qui n'est pas son sexe. Et là, actuellement, voyez-vous, pour profiter de mon baxé, n'est-ce pas? Eh bien, nous avons l'ADN d'Adam et Ève. On appelle d'ailleurs les mitochondries d'Ève. Parce que figurez-vous que l'homme ne donne que son noyau, tandis que la femme, elle, donne toute la cellule. La paroi de la cellule, le cytoplasme, les mitochondries appartiennent à la femme. L'homme donne la moitié du noyau. La femme accueille tout avec son noyau, mais l'ovule a une moitié de noyau. Et l'homme donne les 23 paires. Et ensuite, ça se fusionne en 46 paires. Et de noir en noir, d'asiatique en asiatique, d'européen en européen. Nous avons tous exactement le même ADN. Et même s'il y en a certains qui essayent absolument de savoir pourquoi on a la peau noire et les yeux bridés et les cheveux qui frisent, et bien dans le séquençage des acides aminés, c'est vraiment très ténu, quoi. On n'arrive pas vraiment. Alors on essaye de voir, alors on vous dit, vous venez plutôt d'Afrique, vous venez plutôt d'Asie. Je ne sais pas si vous connaissez ces analyses d'ADN où on essaye de catégoriser. Il s'aide peut-être avec la photo aussi, hein, je sais pas, enfin bon. En tout cas, c'est extrêmement fin, le séquençage d'acides aminés. Et on a beau essayer de refaire la soupe originelle en mettant des acides aminés morts, non vivants, qui ne bougent pas d'eux-mêmes. Le vivant, c'est ce qui bouge tout seul. De la cellule jusqu'à l'éléphant, il bouge tout seul. voyez, si ce crayon en quatre couleurs était vivant, vous voyez, pendant qu'il changerait de couleur comme ça pour s'amuser, il sauterait, il sautillerait comme ça. Il n'est pas vivant. C'est pas vivant. Et, eh bien, nous avons tous le même ADN. Nous descendons tous du même couple. Il n'y a pas eu plusieurs natures humaines. C'est un fait. Et je pourrais même vous dire que c'est un fait scientifique avant d'être un fait religieux. Nous descendons tous d'un seul couple. Et la couleur de notre peau, la façon dont nos cheveux tournent, c'est accidentel à notre être. C'est la loterie de l'ADN. Alors, je ne sais pas si vous saviez, d'ailleurs, il y a encore 300-400 ans, il y avait, je ne sais pas, peut-être à peine 5-10% des espèces de chiens, enfin des races de chiens que nous connaissons. Le chien vulgaire était très répandu. Et c'est les hommes qui sélectionnent les apparences, les couleurs, les formes de museau, les formes d'oreilles. C'est très drôle. Mais l'être humain, lui, ben, il se particularise. Il était plus blanc, il était plus foncé. Il se sépare et cette particularité reste. Ça serait drôle d'ailleurs d'aller jusqu'au bout et de voir les formes de nez. De savoir dans telle région il y a tel nez. Vous voyez, parce qu'il y a eu une souche avec ce nez-là et qu'on est tous plus venus plutôt de ce couple-là qui avait tel nez. Ça serait très drôle, ça, ou telle forme d'oreille. Oui. Mais alors, mais je ne suis pas là pour vous le faire croire, mais pour vous le dire, donc nous sommes issus d'un seul couple unique, Adam et Ève. Et alors, quelle est la particularité de cette nature humaine? Eh bien, c'est que nous sommes créés adultes, et que Adam et Ève se sont vus, se sont aimés, et c'est enfin le premier mariage. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas prononcé le mot mariage. Quoi. On était là pour une session sur le mariage. Quoi. C'est le premier mariage et qui est fondé sur la différence sexuelle uniquement. Et comme nous ne sommes pas de purs mammifères et des bêtes, parce que je vous assurais que les lions, quand vous avez un lion, tous les autres lions, ils doivent se serrer la ceinture parce qu'il n'y a que lui qui peut féconder les femelles du clan. C'est une sexualité particulière, la sexualité bestiale. Nous avons une sexualité spirituelle. Jésus le dit. Il n'en était pas comme ça dès le commencement. De quoi? Divorce et polygamie. Alors c'est quoi dès le commencement? C'est un couple monogame. Adam et Ève. Et quand vous irez jusqu'à Noé, Noé est monogame et ses trois fils sont monogames. La polygamie vient de Cain et de Tubal-Caïn. Ce sont de ceux qui... Et les Cananéens aussi. Les descendants de Cam sont polygames rapidement. Mais la polygamie est une dégénérescence de l'amour humain. C'est pas la pureté et la beauté et la finesse de l'amour humain. Adam et Ève sont deux êtres humains qui sont dans une vallée luxuriante. Et Dieu leur parle. Et ils parlent à Dieu. On a du mal à l'imaginer, c'est vrai ce que je vous dis. Et Dieu leur dit, je ne veux pas que vous décidiez de vous-même de la science du bien et du mal. C'est moi qui vais vous dire quel est le bien, quel est le mal. Ils ont une conscience, ils ont des connaissances simples, faire le bien, éviter le mal, aimer, pardonner les faiblesses et pas encore les péchés. Et là, il leur dit, ne prenez pas, alors l'Église vous laissera libre de considérer que c'est un péché imaginatif de volonté ou un péché avec un soutien matériel comme un arbre avec des vrais fruits. Pomus, pomme, ça veut dire fruit en latin. Ça ne veut pas dire pomme. Et c'est melus ou mela, la pomme en latin. Et donc, il y a un arbre, vous avez des fruits, ou c'est un acte de volonté, de désobéissance, et de vouloir connaître, Dieu leur dit, ne prenez pas de ce fruit, ne désirez pas décider de vous-même. Et Lucifer apparaît, et à nouveau on vous laisse libre, sous la forme d'un animal, d'une sorte de serpent. Vous avez des visions de mystiques qui ont vu le péché originel, qui auraient vu le péché originel, l'Église laisse libre, c'est des révélations privées, où c'est une sorte de si vous voulez, de serpent avec des petites pattes. Une sorte de, comment dire, de ce qui résiste au feu, là.
Salamandre.
Une sorte de salamandre. Bon. En tout cas, cet être parle à Ève. Il lui dit, vous êtes heureux? Tout va bien? Oui, nous sommes très heureux. Elle peut parler à des êtres qui parlent, hein? Alors, un animal. Et vous pouvez manger des fruits de ce jardin? Mais oui, nous sommes très libres. Ah, pas de l'arbre, du fruit de l'arbre de la science du bien et du mal. Parce que Dieu nous a dit que si on le faisait, on mourrait. Ils n'ont pas d'expérience de la mort. Hein. Et là, Lucifer leur dit, vous ne mourrez pas. Mais si vous mangez de ce fruit, vous serez des dieux. Donc, Dieu ment et Dieu est jaloux. Voilà ce que dit Lucifer. Et Ève, c'est pas du tout un péché d'impureté, de sexualité ou quoi que ce soit. Ève, elle se dit, je vais être toute puissante. Je vais prendre ce fruit et je vais devenir une déesse. Elle mange de ce fruit, il ne se passe rien, sauf qu'elle a une mauvaise conscience épouvantable qui l'écrase. Puisque Dieu l'a créée, qu'elle parle à Dieu, comme les anges, hein. Elle va voir Adam et lui dit, si on prend de ce fruit, nous serons tout puissants. Et Adam obéit à Ève. Mais Adam est en état de grâce, Adam a sa volonté, il pouvait résister à cette tentation. Et là, tout d'un coup, ils sont perturbés et leur viennent dans la tête toutes sortes de faiblesses, dont leur sexualité. Et alors que Dieu leur parle habituellement, là, il les appelle et eux se mettent derrière des arbres et se cachent. Ils ont honte parce qu'ils ont un sexe, ou parce qu'ils font pipi avec, ou parce qu'ils peuvent faire des choses avec. Et là, Dieu leur dit, mais pourquoi vous cachez-vous? Mais parce que nous sommes nus. Et qui vous a dit que vous étiez nus? C'est le serpent qui nous a trompés. Ah bon? Ève dit, Adam dit, c'est ma femme qui m'a trompé. Courage. Et Ève dit, c'est le serpent qui m'a trompé. Adam, il est majeur et vacciné. Hein, s'il a voulu être Dieu, il a voulu être Dieu. Hein. Eh bien, Dieu dit à Ève, eh bien, tu souffriras. Tu enfanteras dans la douleur, alors qu'elle devait être à l'origine d'une vie heureuse. Tu seras dans l'effort et dans l'épreuve pour vivre. Et ton mari t'écrasera. Ça veut dire que l'excès de masculinité vient du péché. Hein. L'excès. Oui. Mais chacun a son tempérament, la femme, l'homme. Faites attention à ne pas humilier un homme. Et faites attention à ne pas froisser une femme. Et il dit à Adam, et toi, tu travailleras à la sueur de ton front tous les jours de ta vie. Bouf. Et puis, ils meurent surtout. Tout d'un coup, ils sont sujets à la faiblesse. Ils ont froid, ils peuvent être malades. Alors que notre corps humain est fait pour ne pas être malade. Je ne sais pas si vous le saviez. Les cellules humaines ne sont pas faites pour vieillir, je ne sais pas si vous le saviez. C'est curieux le vieillissement. Les cellules humaines sont peuvent se remplacer perpétuellement. On pourrait ne pas vieillir. On essaye, hein, oui, mais c'est pas possible. Eh bien, comment dire, ils ont des enfants. Et là, on va faire une petite pause avant que vous mouriez, mais je termine là. Ils ont des enfants et le mariage est entre égaux. Donc on peut se marier entre frères et sœurs, entre cousin germain et cousine germaine, mais Dieu a étendu l'inceste entre parents et enfants, qui est contre nature. Les relations sexuelles entre parents et enfants sont contre nature. Aux frères et sœurs, pour qu'il y ait la paix de la sensualité dans la famille. Mais Adam et Ève, je vous dis carrément, leurs enfants se sont mariés entre eux. Et c'est l'origine de la pyramide des âges humaines. Et vous remontez dans le temps, ceux qui vous disent, oh oui, mais Néandertal 100 000, 200 000, machin, Macache, vous remontez dans le temps, il y a de moins en moins, de moins en moins de personnes sur Terre. Mais vous arrivez à 2 personnes, figurez-vous. Sur des milliers d'années, vous arrivez à 500 personnes, 200 personnes. 1000 personnes. Pourquoi? Ben parce que c'est comme ça. On part de 2 et après on... Mais on... Si vous voulez, c'est pas des abstractions à plusieurs milliers à tel endroit ou tel endroit. On part de 2 personnes. Et donc les enfants, et je m'arrêterai là et on fera un petit complément après. Les enfants d'Adam et Ève se marient. Et 2 frères, Abel et Caïn. Abel est un saint homme, très juste et très bon, et Caïn est tordu. Dans sa prière, la pureté d'intention d'Abel se manifeste par la fumée qui monte vers le ciel. Lui, il sacrifie des moutons, il est éleveur. Caïn, lui, fait de la culture, et quand il brûle du blé, il dit quel gâchis, n'est-ce pas ? Et la fumée parcourt le sol. Et c'est amusant d'ailleurs de voir que dès la création de l'homme, on fait de l'élevage et on fait de l'agriculture. À bon entendeur, salut. Mais sinon, Caïn est fou de jalousie vis-à-vis de son frère. Il prend à part, et d'après la tradition, hein, il prend une mâchoire d'âne mort, hein, et brise la tête de son frère. Ce qui fait que Adam et Ève arrivent et ils voient leur fils, Abel, la tête ouverte. Et c'est le premier mort. Imaginez un peu, eux qui ont un potentiel de vie extraordinaire. Hein. Adam vivra, là vous allez me lyncher, hein, 960 ans. Hein. Mathusalem vivra 990 ans, je crois. Mais c'est le compute, vous êtes protestant en fait, fondamentaliste, évangélique. Non, c'est... C'est le compute biblique, que ça vous plaise ou ça vous plaise pas, parce que vous avez les générations d'Adam et Ève jusqu'à Noé. Et je suis obligé de vous dire que je crois en l'existence de Noé et du déluge. Le déluge n'a pas été un déluge universel sur toute la Terre. Le déluge a été dans la vallée du Tigre et de l'Euphrate. Et vous aviez seulement quelques milliers de personnes depuis Adam et Ève. Et tout le monde est mort, sauf Noé, sa femme. Sem, Cam et Japheth, ses 3 fils, et leur épouse unique. 8 personnes ont été sauvées dans un bateau qu'il a fait monter bitumé en pleine terre. Et les autres étaient là et disent, mais t'es vraiment un taré. Sauf que eux, avec la descendance de Caïn, ont été dans la polygamie, dans le sacrifice humain, dans le meurtre et dans le viol. Vous avez un film qui est sorti et qui est kabbalistique et qui a plein de faussetés, hein, qui s'appelle, Noé. Alors vous avez Noé qui aurait gardé la mue du serpent luciférien pour bénir, tout ça c'est de la kabbale, c'est complètement faux, c'est pourri, d'accord ? Ensuite, c'est l'enfant naît après le déluge et tout ça. Enfin, ils ne respectent pas la simplicité de la Bible. Mais par contre, on voit la corruption de l'être humain du temps de Noé. Et ça, c'est juste. Ensuite, ils vous font un truc kabbalistique. Ce sont des esprits pierreux, qui voulait aider l'homme en le faisant connaître certaines comment faire le fer, comment faire le cuivre, une connerie. Mais ce qui est intéressant dans ce film, c'est la décadence profonde des descendants d'Adam et Ève. Sauf Noé qui lui reste saint avec ses trois fils et leurs trois filles. Et là, on va faire la pause. C'est lorsque Noé sort de l'arche. Donc il fait un test, hein, il envoie une colombe, un corbeau. La colombe revient avec une brindille. Ça veut dire que les arbres sont sortis de l'eau. Il a plu pendant 40 jours. Tout le monde est mort noyé. Ça se retombe. Il sort. Ils recommencent à revivre, ils ont sauvé des animaux d'élevage et des animaux de la plaine. Ils les ont fait ressortir. Et voilà que il prend des raisins. Mais pour la première fois, il a oublié du raisin et il a fermenté. Il le boit, ça va être une horrible piquette. Il a dû trouver ça amusant, comme un peu du vinaigre. Et c'était très alcoolisé, enfin alcoolisé, et il est parti en l'air. Et donc il était ivre-mort dans sa tente. Et là, son fils Cam revient de la chasse et trouve son père qui sort de la tente en titubant. Et il rigole. Parce que son père ne s'est pas habillé. Il est resté nu. Mais on ne se moque pas des parties viriles de son père. Et donc, vous avez Sem et Japheth qui arrivent, ils prennent le manteau de leur père et à reculons, pour respecter la nudité de leur père, ils lui mettent son manteau. Quand Noé a repris ses esprits, il dit, vous avez été béni à la sortie de l'arche, donc je ne peux pas te maudire, mais toi, Cam, tu seras maudit dans ta descendance. Et ça a donné les Cananéens et les Philistins. Sem, ça a donné les Sémites. Ça vous dit quelque chose? Antisémite, Sémite, ça vous dit quelque chose? Et Cam, Japheth aurait donné les Indo-Européens. Bon, eh ben, je vais comment dire, vous faire un peu respirer. Je vous prends encore une demi-heure. Vous pouvez pas. Vite, hein? C'est trop, hein. Tenez, c'est la lecture de la Bible en 3 heures. Qu'est-ce que vous voulez? C'est une synthèse, hein. Je ne fais pas tout, hein. Alors.